Radio Terre. Radio Terre, ici Radio Terre.
Allô les rats ? Ici la Terre.
Bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur Radio Galère, vous écoutez l'émission Ici Radio Terre.
L'émission qui déconstruit la construction.
On va vous parler de construction, de bâtiments, d'habitation, de logements, bref, des façons de construire et d'habiter, de leurs impacts sur l'environnement et la société.
Rebonsoir et rebonjour et bienvenue dans cet épisode 4 d'Ici Radio Terre. Pour cet épisode, nous sommes allés à Florac rencontrer un collectif. Et nous allons parler de logement, d'accès au logement. Car c'est vrai que dans cette émission qui déconstruit la construction, il faut bien évidemment parler de la spéculation immobilière et de sa conséquence sur le mal-logement en France. Pour vous donner quelques chiffres, le mal-logement, c'est 4 millions de personnes en France, dont 300 000 sans-abri. Et selon l'INSEE, il y a 3,5 millions de logements vacants. Donc déjà, première aberration. Ensuite, 50% du parc locatif est détenu par 3,5% des propriétaires. Donc on voit bien que cette concentration des ressources crée une tension et des problématiques. Mais à chaque problème, sa solution, paraît-il, et en attendant que la solution vienne des pouvoirs publics, des personnes essayent de s'organiser pour inventer des nouvelles façons bien d'accéder au logement ou même de réhabiliter les logements vacants et de les mettre à la location de façon non spéculative, non lucrative. Et en plus de ça, en utilisant des matériaux plutôt sains et des méthodes qu'on peut appliquer à des chantiers participatifs, des choses comme ça. Donc c'est super chouette, nous ça nous plaît beaucoup. Et donc nous sommes allés les rencontrer dans leur premier chantier pilote. Et je vous laisse tout de suite avec l'interview et je vous souhaite une bonne émission.
On se retrouve aujourd'hui pour parler des problématiques du logement, comment se loger, surtout dans le milieu rural. Et on a rencontré dans ce cadre-là le collectif Pierre Commune, et qui justement, de ce constat, a créé un collectif pour essayer un petit peu de militer contre ces problématiques de logement et d'apporter justement des solutions. Donc je ne sais pas si vous pouvez un petit peu présenter... le collectif.
Alors du coup, le collectif Pierre Commune existe depuis un an officiellement en tant qu'association. Alors plutôt une association citoyenne composée d'une dizaine de membres qui gravitent à temps assez régulier pour répondre à la question du logement sur le bourg de Florac et notamment le centre-bourg. Donc on s'intéresse vraiment au centre-bourg, bien qu'on soit conscient que le problème existe de partout, et sur la commune, et sur les communes alentours, et dans les milieux ruraux en général. On a pour objectif de se monter en foncière, mais aujourd'hui, on est une association de préfiguration. pour en fait se confronter au réel, toutes les problématiques et tous les questionnements soulevés par le fait de d'avoir en gestion des logements, de pouvoir les rénover d'abord, puis les mettre en location sur le long terme afin de proposer une autre solution, d'autres solutions de logement, quoi.
Pour être un petit peu concret, c'est qu'il y a tout simplement un véritable problème pour trouver une habitation quand on veut vivre à Florac, quand on veut y vivre à l'année, donc éventuellement y travailler aussi. On a du mal à en trouver parce qu'il y a un souci, notamment avec le nombre de logements qui sont consacrés aux résidences secondaires, par exemple, mais aussi le nombre de logements vacants qui est assez conséquent, mais on va dire que les résidences secondaires et les résidences saisonnières, touristiques, sont... c'est une grande part du nombre de logements. Là, sur votre fiche, vous, vous mettez qu'il y a 502 résidences secondaires au moment où vous faites le recensement pour 1000 résidences principales. C'est ça à peu près. Du coup, c'est quand même fou, ça fait 50%, quoi.
Non, 30%. 30%,
ouais, 30%. Avec 142 logements vacants. Donc c'était ça un petit peu le constat à la base, juste avoir un toit et pouvoir se loger durablement à l'année.
Oui, et durablement à l'année, ici c'est important parce que l'isolation, et enfin un logement salubre, c'est essentiel, notamment en hiver, pouvoir... bien se chauffer, ne pas avoir des logements à la limite de l'insalubrité. On a beaucoup ici d'appartements et d'habitations qui sont très humides. Si c'est pas chauffé, c'est encore pire. Et disons que on a le droit à un logement décent, tout un chacun. Ici, il y a beaucoup de logements. Il y a une part, alors on ne l'a pas recensé ici, mais de logements sociaux. Et ça, pour le coup, on a l'impression qu'il y en a suffisamment. Enfin, en tout cas, il n'a pas l'air d'y avoir un gros manque. Nous, on s'intéresse à la tranche du dessus, aux personnes qui ne peuvent pas prétendre à un logement social, mais pourtant qui ne sont pas non plus... qui sont dans la tranche moyenne, quoi, et qui ont du mal à se loger à l'année.
En fait, ici, il y a beaucoup de logements qui sont loués de septembre à juin, voire même de septembre aux vacances de Pâques, et qui l'été sont loués 4 fois plus cher. Il y en a même d'autres qui sont loués seulement en location touristique parce qu'ils n'ont pas les normes, ils sont pas au DPE. C'est-à-dire que il y a pas les mêmes normes. Par exemple, si on veut louer un logement sur une plateforme comme Airbnb, on peut la louer sans avoir le même confort qui est nécessaire à louer un bien à l'année. Ce qui fait que c'est bien plus simple pour un propriétaire de louer seulement sur une période estivale où ça va permettre de générer un certain bénéfice, sans se questionner sur « Ah, en fait, là, aujourd'hui, on veut des logements très performants. » Donc, en fait, je pense que les lois, elles partent d'une bonne intention de base, d'isoler des bâtiments. Ça permet aux gens d'arrêter de vivre dans des conditions, de mauvaises conditions de vie, quoi. Bon, ça permet aussi de donner des subventions aux industriels pour qu'ils financent la réhabilitation. Et ça, c'est un autre souci, mais en fait, je me demande moi souvent, est-ce qu'il faudrait pas finalement rabaisser un peu les exigences d'isolation thermique si c'est pour permettre un plus grand nombre de locations? Je sais pas, c'est des questions peut-être sans réponse. En tout cas, moi, je n'ai pas de réponse définitive là-dessus.
D'autant qu'il y a un réel sujet, une réelle problématique ici, et je pense que dans tous les territoires où il y a de la construction en pierre, c'est que justement ces classes énergétiques sont assez faussées. C'est-à-dire que le logiciel préfèrent une isolation par l'extérieur, mais du coup, qui dit isolation par l'extérieur dit souvent polystyrène, ou en tout cas matériaux qui ne permettent pas à la pierre de respirer. Du coup, en fait, il y a vraiment un problème là-dessus. Et ils sont, enfin, c'est remonté au préfet, etc. Ils sont en train de réfléchir à des solutions, mais aujourd'hui, enfin, tout ce qui est classe, normes, diag, enfin, des fois, c'est pas assez fin.
Ça m'étonnerait pas que les constructions dites à l'ancienne, enfin traditionnelle, sont sous-notées, quoi, à mon avis, dans les DPE.
Ah bah, complètement. Ouais. Et là où avant, un correcteur thermique au niveau des murs aurait fait l'affaire, parce que en haut on stockait du foin, en bas il y avait les baies, donc ça c'était avant. Mais en soi, ça marchait. Aujourd'hui, s'il y a un trou quelque part dans l'isolation, d'un coup, on a l'impression de perdre toute la qualité. Et voilà, pareil en termes de système de chauffage. On gagne, entre guillemets, plus de points si on est en chauffage électrique que si on est au chauffage au bois.
Quand vous avez commencé à vous renseigner sur votre envie, sur ce projet, en fait... est-ce que vous avez exploré d'autres choses qui se faisaient à d'autres endroits ?
En Lozère, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule autre foncière solidaire qui s'est structurée comme association dans les Cévennes, qui s'appelle La Logeuse, et qui, je crois, aujourd'hui a deux logements qu'elle a pu mettre en location. Et c'est là, je dirais que ça existe depuis environ 10 ans, mais moi, je ne les ai pas rencontrés personnellement, donc je ne peux pas trop m'avancer. Après, on a rencontré une structure qui s'appelle l'Arban dans la Creuse, mais où le logement, ils ne font pas que du logement. Ils proposent aussi des manières de racheter du foncier pour faire des ateliers, pour faire des... Est-ce qu'ils ont un commerce ou deux ? Je sais qu'ils ont eu des logements pour seniors, ce qui leur ont permis un peu de se faire accepter aussi dans le village. C'est pas des logements pour néo-ruraux, c'est des logements pour personnes âgées, ou à mobilité réduite. Là, je donne un exemple parmi d'autres, mais c'est celui dont je me rappelle.
Il y a Village Vivant aussi, mais là, pour le coup, c'est vraiment plutôt des commerces. Enfin, en fait, redonner vie au village en proposant des... enfin, voilà, des surfaces de bureaux ou pour en faire voilà, diverses activités. Donc c'est une autre manière de vivifier enfin, les centres-bourgs. Mais nous, en tout cas ici à Florac, le centre est déjà vif, quoi.
Et j'ai l'impression qu'il y a une particularité dans votre collectif ou dans cette foncière, c'est que il y a aussi beaucoup, vous faites les travaux vous-même, où il y a des... En tout cas, dans le collectif, il y a des artisans, des artisanes, des architectes, des choses comme ça. Donc est-ce que déjà vous pouvez nous parler un peu des profils de cette, qu'il y a dans ce collectif, dans cette association, dans cette foncière, et aussi du fait que c'est vous qui faites la rénovation et que vous essayez de la faire d'une façon... écologique, enfin avec des matériaux plutôt sains et avec des méthodes saines et de façon interne.
Déjà pour parler des profils de l'association, en fait tout le monde est un peu multicasquette. Disons qu'il y en est plusieurs à avoir travaillé dans les champs de l'architecture ou de l'urbanisme ou à juste être formé là-dedans. Il y a des personnes qui sont ingénieurs, il y a quelqu'un qui est retraité. Là, je parle des membres principaux, mais en fait, si on s'étend aux bénévoles, là, c'est tout plein de métiers du commun.
Des personnes qui donnent du temps de travail à cette...
Voilà, ça, c'était dans le cadre de chantier participatif, où ça a permis d'ouvrir aussi le projet sur d'autres personnes localement. et que d'autres personnes aussi s'emparent du projet, que ça reste pas seulement un projet actuellement d'un noyau dur de 6 personnes. Mais pour parler de la conception, dans les 6, on est, par exemple, en ce moment, on est 4 à faire partie de la commission chantier. L'association se structure en différentes commissions, notamment une qui est centrée sur le chantier. Il y a principalement une personne qui s'occupe de la conception. Après, les choix qu'elle propose peuvent être discutés, mais ça tourne toujours autour de l'usage de matériaux et de techniques constructives qui sont respectueuses du bâti ancien, qui permettent un certain confort d'habiter avec des matériaux, on essaye locaux, mais c'est quelque chose d'assez compliqué aujourd'hui. Mais en tout cas, des matériaux biosourcés, des matériaux qui vont émettre peu de CO2. À titre d'exemple, on fait des enduits en chaux chanvre. Ça a notamment été le cas on a fait ça notamment lors d'un chantier participatif il y a quelques temps. C'est des enduits qui permettent un certain confort à l'intérieur. Pas la sensation de parois froides due aux murs en pierre, parce qu'on est quand même dans du bâti ancien, avec des murs qui font entre au moins 50 cm d'épaisseur, construits ici en schiste et en galets de rivière. Et ces enduits permettent à la fois de jouer une forme de rôle d'isolant, mais aussi de correcteur thermique. Et surtout, ils permettent de réguler l'humidité qu'on trouve dans la pièce, et donc de permettre un certain confort quand on s'y trouve. De laisser respirer le mur. Voilà.
Okay.
C'était un exemple.
Ouais. Moi je trouve intéressant parce que du coup on est tous autour de cette table, même s'il n'y a pas de table un peu dans l'éco-construction, dans la construction en général, le logement. Et c'est dur, enfin je trouve ça compliqué. Quand moi j'ai commencé à me dire je vais faire des l'éco-construction, de pas lier le côté social. Oui, je fais de l'éco-construction, oui, j'utilise des matériaux nobles, mais pour qui, pourquoi? Pour un propriétaire qui va faire qu'une personne passe la moitié de son salaire dans un loyer. Et moi, c'est ça que je trouve super intéressant dans votre démarche, c'est ce côté-là. Moi, ça me plairait de travailler dans quelque chose où je me dis que ce n'est pas pour engraisser, en fait, continuer la machine.
Tu parlais du volet social?
Oui.
Et il y a un outil du coup qui est le chantier participatif qu'on essaye de développer, auquel je crois énormément, notamment à Florac, dans le centre-bourg. La plupart des gens qui viennent s'installer ici cherchent à habiter, à être propriétaires, à rénover du bâti. Et faire des chantiers participatifs sur du coup tout un tas de techniques, ça parle à beaucoup de gens pour se former petit à petit, pour mettre la main à la pâte, pour voir les différentes étapes du chantier et aussi pour pouvoir s'intégrer. On a pas mal de personnes qui viennent sur les chantiers qui connaissent pas grand monde et du coup ça leur permet de faire une entrée un peu sur le
territoire. Ça crée une cohésion dans le village, enfin dans la ville. Les différentes personnes qui se réapproprient en même temps la façon de rénover et la façon de...
Et ce logement qui un jour appartiendra, sera habité par quelqu'un.
On retrouve le commun dans la commune.
Ouais. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est vraiment pépite. Enfin, ça me fait vraiment plaisir de développer ça dans le coin.
Si t'en as marre d'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures. Si t'en as marre d'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures.
Si t'en as marre d'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures. Si t'en as marre d'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures.
Oui, Roland, déjà à l'époque de l'Antiquité, certains citoyens aimaient avoir des petits cailloux dans leurs chaussures et d'autres non. C'est pour cette raison que les Grecs et les Romains portaient des sandales dans lesquelles les petits cailloux pouvaient facilement aller et venir. Au Moyen-Âge, chez les chevaliers, la question ne se pose même plus, puisque c'est bien connu, aucun gravillon ne peut entrer dans une armure. En revanche, dans le bas peuple, on préfère ne pas porter de chaussures. On appelle ces personnes les va-nu-pieds et c'est une expression qu'on utilise encore aujourd'hui.
D'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures. Si t'en as marre d'avoir des petits cailloux dans tes chaussures, ne mets pas de chaussures. Si t'aimes bien avoir des petits cailloux dans tes chaussures, mets des petits cailloux dans tes chaussures.
S'il y a des auditeuristes qui nous écoutent, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent se renseigner sur le projet de pierre commune? Est-ce que s'il y a des gens qui ont envie de participer à la future levée de fonds, où est-ce qu'ils peuvent se renseigner pour vous aider?
Alors, on est en train de finaliser notre site qui sera disponible dès septembre. Alors, il est déjà accessible, il s'appelle pierrecommune.fr, pierre au pluriel, commune au pluriel, tout attaché. L'idée, c'est qu'effectivement, on ait une page de dons, où il est possible de nous soutenir. Mais on va aussi organiser une campagne autour des personnes qui nous suivent par... au travers de newsletters, etc., qui vont pouvoir être largement diffusés. Et c'est vrai qu'on compte un peu dessus pour finir notre premier logement pilote.
Et justement, donc là, on est en plein cœur de ce fameux projet, premier projet en fait, de pierre commune. Donc, ce que vous appelez le projet pilote. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce premier projet? Et voilà, on est au plein cœur de Florac. Et donc là, vous êtes déjà en train de rénover un futur logement qui, du coup, serait le premier logement de la foncière, si j'ai bien compris.
Actuellement, ce logement, c'est la propriété d'une des membres de l'association qui avait racheté l'immeuble à un très bas prix il y a quelques années pour elle-même en faire du logement. Là, il y a ce... En fait, on saisit un peu cette opportunité-là, parce que c'est difficile de paraître sérieux de prime abord. On est, pour la plupart, on vient pas de Lozère. On arrive ici, on a envie de proposer plein de choses, et c'est pas simple d'amener de l'argent, de convaincre les collectivités que... quelques personnes peuvent participer à leur manière à résoudre un peu la question du manque de logement à l'année sur Florac.
Et donc du coup, il y avait une personne donc, du collectif qui avait acheté cet immeuble et ça vous a permis...
Voilà, en fait, on s'est longuement posé la question de comment mettre la main sur ce logement. Est-ce que ce sera sous la forme d'un achat, mais on ne peut pas sortir tout l'argent d'un coup. Est-ce que ça va prendre la forme d'un bail locatif, on lui loue, mais à terme, on devient propriétaire? Est-ce que ça se présente sous la forme d'un bail emphytéotique, qui est un bail un peu à cheval entre la location et la propriété, qui nous permet de faire des travaux, qui nous donne en fait beaucoup de droits et qui nous protège sur le long terme, parce que c'est des baux qui peuvent durer jusqu'à 99 ans. En fait, se pose surtout la question de comment on sanctuarise cette première propriété et les propriétés qu'on aura à venir, et pas juste comment on fait pour que l'asso reste ce qui sera plus, sans doute plus une association à terme, pour qu'elles restent propriétaires de ces logements, mais surtout comment on fait pour sanctuariser le fait que ça reste une forme de bien commun, c'est-à-dire des biens qui appartiennent à une structure sans intérêt spéculatif, donc à but non lucratif. Comment on fait pour faire en sorte que ça demeure après nous, parce que rien ne dit que dans quelques années, les membres actuels ne seront plus les mêmes, pour des raisons personnelles. Et comment faire pour que dans quelques années, on ne se retrouve pas à revenir ici et à voir que les objectifs initiaux de créer des logements à l'année ne soient pas respectés. Donc là, on se pose des questions, notamment avec une juriste, une avocate, sur comment sanctuariser ces biens sur le long terme et à quel point... voilà, c'est encore des questions en suspens. Je préfère pas m'avancer trop là-dessus. Dans tous les cas, ce sera toujours des questions à voir au cas par cas. On va pas affirmer on sera toujours propriétaire ou on fera que des baux emphytéotiques. En fait, ça sécurisera aussi la structure d'avoir plusieurs formes différentes. Si par exemple, on a des propriétés et qu'il y a un souci financier à un moment dans l'administration, on pourra toujours revendre. Peut-être que ce sera un échec du point de vue de sauvegarde du type de bien. Voilà, je pense que...
Ok.
Du coup, justement, j'avais deux questions pour rebondir un peu sur... parce que tu as parlé de juriste et c'est vrai que c'est pas forcément facile. Enfin, on voit un petit peu la foncière, tout ça, le fonctionnement. Mais c'est vrai que c'est un peu impressionnant de se dire, tiens, mais en fait, comment concrètement on construit ça et pour que ça soit officiel et que ça roule. Et du coup, est-ce qu'il y a des métiers, enfin des personnes en particulier dont il faut s'entourer absolument pour lancer ça? Parce que du coup, je rappelle aussi que c'est surtout donc des artisanes et des artisans qui sont partie prenante de cette foncière avec d'autres personnes aussi, mais qui ne sont pas forcément des professionnels, par exemple, de la loi ou toute la partie économique. Comment faire?
On a justement pour se structurer, on s'est entouré de pas mal de prestataires extérieurs. Et ce, grâce à une première subvention qu'on a reçue de l'Europe, qui justement nous permet de structurer l'idée, quoi, et qu'on soit un peu pris au sérieux. Pour ça, du coup, donc, on a plusieurs commissions. Et un peu pour chaque commission, on a un prestataire extérieur. Donc on a la commission modèle juridique, qui est accompagnée d'une avocate qui, au fil du projet, répond à nos questions et essaye de trouver des meilleures, des réponses, notamment sur ce premier logement pilote, etc. Comment sécuriser et l'association et la propriétaire, vraiment travailler sur les deux parties. Pour ce modèle juridique, on a aussi l'ADIL, qui est l'agence départementale d'information au logement, il me semble, qui est du coup une structure institutionnelle qui peut recevoir tout un chacun pour répondre à des questions d'ordre juridique, qui nous a été très utile pour le moment. Ensuite, une autre commission, c'est le modèle économique. Le modèle économique, pour le coup, on a aussi d'autres prestataires qui sont à la fois la COP Oasis, qui nous permet de réfléchir au modèle économique et à ce que comment faire pour être viable sur le long terme. Donc du coup, ça soulève un tas de questions, notamment là aujourd'hui on travaille un peu sur la foncière, c'est bien, mais aujourd'hui, on ne va pas pouvoir être à l'équilibre, même après avoir terminé un logement. Le loyer de ce logement-là ne va pas pouvoir subvenir à tous les besoins, notamment si on veut développer le salariat. Enfin, parce que l'idée, c'est aussi de créer de l'emploi. On a aussi dans ce volet un peu économique l'Arban. qui est une foncière solidaire en milieu rural dans la Creuse, qui eux ont 15 ans d'existence et du coup dont on s'inspire beaucoup et qui nous forme un petit peu sur tout un tas de questions diverses et variées. Et c'est très pratique parce qu'il y a beaucoup de questionnements par lesquels ils sont déjà passés. Voilà, donc c'est vraiment des pairs. Bon, ensuite on a le volet communication parce qu'en fait il nous faut une identité graphique pour pouvoir communiquer et que ce soit enfin voilà, que ça parle à tout le monde. On a aussi du coup avec la levée de fonds, on s'accompagne d'une prestataire qui est vraiment très locale qui nous aide à faire la levée de fonds, parce qu'en fait c'est tout un travail. Donc elle nous accompagne dans toutes les étapes. On n'imaginait pas, c'est vraiment un iceberg quoi. On se dit oh, on va communiquer puis ça va bien marcher, mais en fait il faut mettre en place tout un tas de choses. Donc en fait on se forme vraiment au fur et à mesure, pierre après pierre.
Et du coup, c'est ça, en fait, les subventions qu'on peut demander, par exemple, c'est que vous avez obtenu de l'Europe. Vous avez dit que ça ne peut pas servir à acheter un logement, par exemple, mais par contre, ça peut servir à payer toutes ces personnes-là, et notamment à payer aussi des gens qui font des levées de fonds, qui, ces fonds pourront, par contre, eux, permettre éventuellement, enfin, peut-être pas d'acheter un logement dans un premier temps, mais au moins de payer des gens, contrairement aux subventions publiques ou en tout cas européennes qui peuvent pas servir à ça, c'est ça ?
C'est ça. Et ça, pour le coup, je pense que sur le territoire, c'est quelque chose d'assez innovant. Il a fallu qu'on défende très ardemment ce côté, en fait, on a besoin d'argent pour se structurer. On nous a répondu, mais pourquoi autant d'argent ? C'est complètement... aberrant, mais en fait, si, ça nous sert à nous, parce que aussi, ce dont je n'ai pas parlé, là j'ai parlé des prestataires extérieurs, mais il y a aussi nous pour développer le volet réemploi, pour développer les outils de chantier participatif, pour, enfin bref, un peu l'ingénierie de projet, la coordo, il y a tout un tas de volets. Voilà, qu'il faut sortir des sous à chaque fois et c'est pas évident, et il y a de grosses ambitions derrière, mais du coup faut mettre les moyens en face et les personnes surtout. Alors on n'a pas cité la commune de Florac, mais elle nous subventionne aussi dans la même subvention de l'Europe. Oui. L'Europe ne subventionne jamais toute seule. Elle subventionne toujours avec d'autres collectivités, et donc okay. C'est la commune qui nous finance sur ce montage. Ensuite, elle est quand même très aidante. Elle nous aide justement à monter une outil tech pour avoir des outils pour nous pouvoir rénover, et par ailleurs pour pouvoir les prêter pour que d'autres du coup puissent s'en servir. Elle est aidante aussi au niveau des locaux. Elle nous prête régulièrement des locaux pour qu'on puisse travailler. C'est des partenaires privilégiés. Effectivement, je suis d'accord que c'est une question de la commune. Mmh. Après, on est en milieu rural. Les communes, même si Florac, c'est un grand bourg, ils peuvent pas tout gérer, malheureusement. Il y a déjà beaucoup de projets. Ils ont des projets justement de réhabilitation d'îlots dans le centre qui ont plutôt bien fonctionné, en tout cas qui ont permis de créer des logements. Mais comme tout projet, enfin en fait tout ça est long, et le temps de la municipalité c'est pas le même temps qu'une structure qui travaille dessus quotidiennement. C'est d'autres réalités qu'il faut prendre en compte et déjà se réjouir que c'est un sujet pour la commune.
Tous ces trucs de financement de chaque fois département, région, Europe et tout, ça me pour moi, le logement, c'est un droit universel, comme l'accès à l'eau. Et en fait, ça devrait être les collectivités. Et ce travail-là devrait être un travail de fonction publique.
Mais c'est vrai que du coup, il y a aussi peut-être des choses au niveau de l'État à mettre en place.
Au niveau de la loi. Enfin,
c'est ça, légiférer pour restreindre ou pour avoir un, je sais pas, un pourcentage d'occupation à l'année au moins. Parce que effectivement, ici, on a beaucoup de résidences secondaires, mais il y a des personnes qui viennent quand même 6 mois dans l'année. Alors, c'est pas à l'année, mais ils participent quand même à une vie de village. Mais voilà, c'est comment en fait on se répartit ces logements, parce que c'est des logements, il y en a partout.
Je sais plus si c'est dans le Pays Basque ou à Saint-Malo, ils ont réussi à faire en sorte de peut-être légiférer sur le fait qu'il fallait d'abord résider un certain temps avant de pouvoir acheter pour habiter. Ce qui limite des achats. Il y a des personnes en France qui ont plusieurs résidences secondaires en fait. C'est... Mmh. Même dans les parages, j'ai déjà parlé à quelqu'un qui avait 2 maisons à côté et en fait il n'y a qu'une seule personne qui vient partiellement, ponctuellement dans l'année. Mais en fait c'est un peu tout le souci des résidences secondaires qui sont des logements, des maisons de famille où ça a été acheté par ses grands-parents, il y a un ancêtre qui a vécu dedans et il y a quelque chose de sentimental. En fait c'est pas juste quelqu'un qui veut venir en vacances sur le territoire, c'est quelqu'un qui a des liens ici et qui d'une certaine manière essaye de maintenir ses liens et malgré le fait qu'il n'y habite pas en continu.
Le constat qu'on a fait au début de l'émission, il est très fréquent, voire même presque généralisé, et aussi en ville, mais aussi donc, du coup, dans d'autres zones rurales, dans d'autres villages. Et donc par exemple, quelqu'un qui écoute l'émission, qui possède des logements, par exemple, et qui se demande ce qu'il pourrait en faire. Et qui du coup voit de quoi on parle en termes de constats sur les trop grandes parts de résidences secondaires ou de logements dédiés au tourisme, qui sont un peu que dans son village ou dans sa ville, il y a un petit souci avec ça. Comment concrètement cette personne-là peut quels sont les choix que cette personne a pour rejoindre une dynamique comme la vôtre? Donc on peut reprendre l'exemple de Florac. Mais on peut aussi juste se dire, voilà, s'il y avait une foncière comme ça dans toutes les villes, donc il y en a déjà quand même pas mal, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donner son logement, on peut le louer, le bail emphytéotique, tout ça, tout ça. Est-ce que vous pouvez genre résumer un peu les solutions, histoire d'inspirer les propriétaires?
La première réflexion serait... autour de la personne à qui il veut le louer, dans le sens où de fait privilégier quelqu'un qui habite plutôt que quelqu'un qui est de passage, parce que effectivement je comprends on gagne bien sûr plus d'argent à louer de manière temporaire, mais il faut aussi se rendre compte qu'on, quelque part, si tout le monde fait ça, on déshumanise notamment les centres, que ce soit de bourg ou de grande ville. Et ça, pour le coup, si on tient à notre quartier, ce serait déjà une bonne solution. Ensuite, tu parlais du bail emphytéotique. Oui, alors ça, c'est plutôt peut-être à l'adresse d'une personne qui n'arrive plus à gérer ou qui n'a plus le temps ou l'envie même de rénover. Si c'est qui n'a pas les moyens, le bail emphytéotique est une solution intéressante pour celle qui voudrait garder la propriété. Parce que c'est quand même une grosse question, la propriété dans notre culture. Et un bail emphytéotique, même sur la durée minimum, permet de garder, du coup, de tester sur un, entre guillemets, court terme. Voilà, le côté, c'est quelqu'un d'autre qui gère, mais du coup qui paye aussi la taxe foncière, mais aussi qui s'occupe de la rénovation, de tout le bien. Et puis, 36 ans plus tard, on voit peut-être que la génération suivante voudra l'habiter. Il y a une espèce de délégation comme ça de
propriété. De gestion, de propriété. Mais c'est ça, du coup, c'est vous ne perdrez pas votre logement. Il restera dans la famille. Mais c'est vrai que c'est assez génial comme solution parce que. Donc c'est ça, voilà, la propriété reste dans la famille si on veut. Mais par contre, tout est pour un temps défini, du coup, qui peut être court mais long à la fois, voire beaucoup plus long, ça peut aller jusqu'à 99 ans, c'est ça à peu près. C'est-à-dire, éventuellement, du coup, plusieurs générations. Où du coup, tous les soucis de la propriété sont remis à un autre bailleur à la fin, parce qu'en fait la foncière par exemple devient elle-même bailleur et donc une bonne solution pour entretenir son logement dont on ne sait pas trop quoi faire et en plus participer à une chouette cause.
C'est hyper intéressant toutes ces questions là parce que c'est des choses que vous prenez aussi en compte justement dans votre projet et dans vos solutions de rénovation. Et c'est ça aussi qui est intéressant, et notamment plus le fait aussi d'ouvrir ça à des chantiers participatifs, parce que ça permet aussi de montrer des alternatives à des méthodes plus conventionnelles, en fait, qu'on a beaucoup l'habitude de voir. Et le fait que vous ayez aussi, au sein du collectif, en fait, une expertise sur ces sujets-là, qui est des artisans, des architectes ou enfin des personnes en tout cas qui se questionnent sur tout ça et qui s'y renseignent, ça permet aussi de transmettre tous ces savoir-faire, de mettre en lumière aussi ces méthodes-là. Et du coup, c'est aussi une dimension du projet qui est hyper intéressante.
Bon, eh bien c'était Pierre Commune avec deux de ses représentants et représentantes dans leur chantier... à l'intérieur de leur chantier prototype projet pilote. Et bien, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps.
Merci.
C'était très inspirant.
Merci.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à mes camarades briquetiers, briquetières, artisans, artisanes d'avoir participé à cette petite interview. Et voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres solutions, images, imaginations pour une construction plus saine, un logement plus durable et un avenir radieux.
Dans ce rap biz, on est arrivé les mains dans les poches. À l'époque, c'était en voile beat. On fait le truc à l'arrache et laisse parler la rage. Moi et mes potes, on veut graver ça dans la roche. On a la dalle et rien dans le beat. Depuis, le blaze a tourné, tu connais la suite. Tout ça est passé bien vite, on sait que j'en suis. Dans la vraie vie, oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Déjà, je suis moins sur la paille et je suis sorti de mon trou. Voir du pays est vide. Des moments forts avec mon crew qui fait entre nous. Et rendre fiers les nôtres qui nous ont connus et soutenus avant tous les autres. C'est pour les mecs de chez nous, les équipes de l'équipe baroude, ou qui restent postichés au QG entre couilles. Là où je suis dans mon élément,
Là où j'ai tellement passé de temps à qui fait rien faire, je suis presque un meuble qu'on peut pas déplacer. Comme une encre impossible à effacer, comme un tag à l'acide, comme mon blast. Gravé à la bougie sur les vitres du RER, SNIPER avec un putain de lettrage.
Approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche. Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche. On retranscrit la vie qu'on mène, sur disque ou sur scène, c'est gravé dans la roche. Tout ce qui s'est passé, j'ai pas changé. J'suis toujours le même enfoiré, je tourne pas ma teubé. Non, j'garde mes principes et mes points d'attache. J'kiffe pas la célébrité, j'ramasse juste mon cash pour mes points de repère, sinon j'suis du père. L'ami Falago, les compères, c'est pépère. Rien à foutre de leur hip-hop jet set. J'profite de la chance que j'ai, j'joue pas le guinri, j'me prends pas la tête. J'suis pas une vedette et j'veux pas en être une. J'suis pas mieux qu'un autre, j'ai pas marché sur la lune. Gravé dans le bitume, gravé dans la roche. Juste ma plume et mes proches. J'me rappelle de nos débuts. 9-7, commencement de l'histoire. Proposition de l'album, on voulait même pas y croire. 30-01-2001, la machine se met en route. 2003, toujours le kiff, le succès, rien à foutre. Maintenant qu'on est hal, on compte bien y rester. Gravé sur la dalle, aimer ou détester. L'aventure continue et continuera. Inch'Allah, qui vivra verra. Mais approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche. On lâche pas, on s'accroche, du but on se rapproche. Son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche.
Là dans l'esprit même, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
J'ai presque arrêté le chanvre, fini de rapper dans ma chambre, tu sais. T'as changé depuis le 11 septembre, mais pour le reste c'est idem. Du kiff-kiff au final, t'as reconnu la voix que t'aimes. La même signature vocale, chacal à l'arrache. Du hip-hop sans complexe, tellement gravé dans la roche. J'allume mes clopes au silex, riche pas encore. Toujours le même problème de flou, cette maladie incurable. Qui soigne par pack de 12, hey. Ma belle, y'a pire, bâche-tu à la tâche, respire. La vie est belle, ça s'écrit pas VIH. Toujours le même salaud, dégueulasse, efficace. Rapace qui joue le beau, alias Tunisiano. Mon premier cassage de dos, comme mes premières thunes. Mon premier pas en studio, comme le premier pas sur la lune. Les mêmes raglis, les mêmes cliniques pressentis. Orti, Zerasum Roti ou Zokiati. Les mêmes histoires d'Alma, Chilo, R. Kelly. De la mort de Biggie, au pont de l'Alma et les Didi. Ici, tu hoches la tête, l'album te met en transe. Sniper gravé dans la roche, on revient choquer la France.
Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
On lâche pas, on s'accroche, du
son disque sous le porche, c'est gravé dans la roche.
Là dans l'esprit même, on retranscrit la vie qu'on mène. Sur disque ou sur scène, c'est
gravé dans la roche.
Je rappe ghetto, ouais je rappe ma vie. On persiste et on lâche pas prise, ouais, t'en dis.
On vient pour contrôler le réseau, ouais.
Marqué de mon empreinte sur mon kiosque.
Et approche, écoute, hoche, la tête si t'accroche. Pour nos familles et nos proches, c'est gravé dans la roche.
Sorti de nulle part, c'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera
gravé dans la roche.
On lâche pas, on s'accroche.
Son disque sous le porche, c'est
gravé dans la roche. Maintenant, restez même, on retranscrit la vie qu'on mène.